Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On a tout dit, tout écrit sur lui, provocateur, provocant et visionnaire, génie rabelaisien, poète de la trivialité.
Gérard Larcher.
Oh non, encore plus Stéphane, un cinéaste qu'il a bien cherché et surtout qu'il a fait exprès lui. Stéphane Bern nous raconte un réalisateur qui s'est pris les pieds dans le tapis rouge de Cannes et à qui ça a plutôt réussi, l'italien Marco Ferreri.
Quatre notables se réunissent le temps d'un week-end sous les boiseries d'une luxueuse et étrange propriété parisienne pour s'adonner à ce qu'ils nomment eux-mêmes un séminaire gastronomique. Ainsi débute l'histoire qui se joue sur l'écran de la grande salle du Palais de la Croisette ce 21 mai 1973 lors de la 26e édition du Festival de Cannes. Des bruits ont déjà couru dans les allées du festival sur cette œuvre qui met à l'honneur une brochette d'acteurs vedettes qui portent tous leur véritable prénom dans la fiction, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli et Ugo Tognazzi. Mais pour l'instant, les 1500 privilégiés qui assistent à la projection de la Grande Bouffe ne comprennent pas en quoi le film répond aux rumeurs de scandale dont ils ont eu écho. C'est que le quatuor de bourgeois désabusés qui ne semble trouver la joie que dans de gargantuesques repas décide ensuite de joindre les plaisirs de la chair à ceux de la bouche, en faisant venir dans leur petit monde un trio de prostituées qui pourra sustenter leur appétit sexuel, comme les kilos de viande et de ripaille sustentent leur estomac. Et l'histoire, qui pouvait sembler quelque peu incongrue, devient de plus en plus sulfureuse. La pâte se pétrit avec les fesses, les cuisses de poulet s'enfoncent goulûment dans les gorges, et l'on mange de la même manière qu'on fait l'amour, on se baffre, on engloutit, on dévore. L'entrée en scène d'un quatrième personnage féminin, institutrice de Dieu, débarquée un peu par hasard dans la demeure, n'ajoute rien à la bienséance. Elle apparaît d'abord comme gentille, innocente.
Oh, le beau gâteau!
Comme la seule qui pourrait redonner un peu de dignité aux étranges agapes auxquelles se livre la bande. Mais elle va finir par accompagner et presque présider leur débauche culinaire et sexuelle. Et à la moitié du film, alors que Michel, l'un des personnages joué par Piccoli, est malade de s'être trop empiffré, le public commence à comprendre.
Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir.
Ce banquet sera bien leur dernier. Les quatre hommes ne quitteront jamais cette maison. Ils s'apprêtent à laisser leur désenchantement s'étouffer dans une mortifère réunion culinaire. Ils mangent pour mourir. Leur indigestion sera leur agonie. La douce et mélancolique ritournelle qui ponctue le film ne change rien à ce qui apparaît de plus en plus au public comme le comble du mauvais goût. Michel se perd dans un concert de flatulences alors que Marcello se retrouve maculé de leurs propres excréments jaillissant des canalisations bouchées. Les uns après les autres, ils meurent de leur insatiabilité et finissent par remplacer la viande dans la chambre froide de la cuisine. Certains spectateurs ont déjà quitté la salle.
Dont vous, Stéphane.
Oui, lorsque la lumière se rallume et dévoile les visages d'un public pantois, mal à l'aise, qui ne va pas tarder à le faire bruyamment savoir. La Grande Bouffe est le 17e film du réalisateur italien Marco Ferreri, un metteur en scène qui cultive un certain goût de l'humour grinçant et de l'absurde malaisant. Un cinéaste qui s'est fait une spécialité de mettre en scène les névroses de la société moderne. Né en 1928, Marco Ferreri a grandi à Milan. Il abandonne ses études de vétérinaire pour travailler à des films publicitaires pour une société de liqueurs, puis à des documentaires, avant de s'installer à Rome dans les années 50 où il devient producteur et côtoie tout le milieu artistique qui profite de l'effervescence d'après-guerre. Ferreri vit un temps en Espagne où il réalise ses premiers films dont certains lui donneront maille à partir avec la censure franquiste. Revenu en Italie, il ne prend pas de pincettes et a tendance à choquer la morale bourgeoise et catholique de son temps. Le lit conjugal, sorti en 1963, crée un petit malaise et un scandale en Italie pour mettre en scène l'étrange et épuisante volonté de procréer dans un monde hypocrite. Son film suivant, Le mari de la femme à barbe, déconcerte le public. Un homme utilise sa femme à la pilosité hors norme pour gagner de l'argent sans que l'on sache bien s'il l'aime ou l'exploite. Ce qui revient peu ou prou à la même chose. Un film perturbant qui fait jaser lors de sa projection en compétition au Festival de Cannes de 1964. D'autant que Ferreri aime à faire tourner les stars à contre-emploi, en Italie comme en France d'ailleurs. Annie Girardot était la femme à barbe exploitée. Catherine Deneuve sera l'héroïne soumise du dérangeant film Lizza en 1971, où une femme prend la place d'un chien pour toucher le cœur d'un homme. Le film, comme beaucoup d'autres, sera un échec commercial. C'est donc plus ou moins ruiné alors qu'il vient de se faire quitter et qu'il a passé un long séjour à l'hôpital qu'en 1972, Marco Ferreri a l'idée de la grande bouffe qu'il imagine comme une dénonciation acerbe et physiologiquement écœurante de l'absurde fuite en avant de la consommation. Mais il est peu de monde pour le soutenir jusqu'à ce que le producteur français Jean-Pierre Rassam s'implique dans le projet. Conscient que Ferreri n'a déjà pas bonne presse et ayant engagé ses fonds propres, le producteur sait que le tapage est encore la meilleure chance de succès. Ainsi, il dévoile quelques images suggestives du tournage, entretient savamment un petit mystère sur l'aspect licencieux du film et laisse filtrer l'étrangeté du contrat d'Andrea Ferréol, choisi pour incarner l'institutrice à la condition de prendre 25 kilos. Jean-Pierre Rassam prépare le scandale. C'est peu dire que ce sera une réussite. Dès la fin de la projection et l'ouverture des portes, c'est la cohue. Le public crie et invective l'équipe du film qui reste soudée et semble s'amuser de ses réactions outrées.
Un scandale! Un scandale! Ça gagne du pognon, ça! Sur le dos du pauvre populo!
Oui, madame!
Marco Ferreri envoie insolemment des baisers à la foule. Catherine Deneuve, qui accompagne son conjoint, Marcello Mastroianni, se gausse en fumant une cigarette. Michel Piccoli semble à la fois étonné et satisfait, jusqu'à ce que la foule se fasse plus pressante et que l'équipe rejoigne un restaurant sous la protection de la garde républicaine. Si, vous l'avez entendu, le journal télévisé du 22 mai 1973 relate l'événement, ce sont surtout les critiques du lendemain qui vont faire de la grande bouffe le scandale cinématographique de la décennie. La presse dénonce un film écœurant, vulgaire, insoutenable et malsain. On s'insurge d'une œuvre inepte et bassement scatologique. Certains le jugent blasphématoire. D'autres affirment que le réalisateur a des problèmes psychiatriques. Et d'autres encore expriment leur honte que la France soit représentée par une telle œuvre. André Astou, patron du CNC, est même sommé de s'expliquer par Maurice Druon, ministre de la Culture de l'époque, sur ce qu'il juge être un choix inqualifiable. Mais il est aussi d'autres critiques pour louer cette fable désenchantée, mettant le doigt sur les turpitudes d'une société qui creuse sa propre tombe en se gavant à l'excès. On note l'habile renversement des valeurs, où la nourriture et le sexe, censés incarner les plaisirs de la vie, sont ici ceux qui guident vers la mort. Or, Ingrid Bergman, grande actrice suédoise alors présidente du jury, qualifie la sélection française de sordide et vulgaire. Peu de chance donc que le film obtienne un prix. Pourtant, le jury parallèle constitué de la critique internationale le récompensera ex aequo avec un autre film français, La maman et la putain de Jean Eustache. Surtout dès le lendemain, le film est à l'affiche dans les salles françaises. Et bien qu'interdit aux moins de 18 ans, il drainera en quelques semaines d'exploitation plus de 2 millions de spectateurs. Un immense succès qui permettra à Ferreri de relancer sa carrière et de continuer à proposer une œuvre irrévérencieuse jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque en 1996. Marco Ferreri disparaît donc avant de pouvoir assister à la projection hommage de la grande bouffe au Festival de Cannes en 2013, lors de laquelle, ironie de l'histoire, une standing ovation remplace les huées 40 ans après le retentissant scandale, les temps ont bien changé.